Radio Capi, grand témoin.
Il a tour à tour travaillé comme premier vice-président, puis président de la Haute Autorité des Médias. Estrès Kambale-Bayekwa est actuellement ministre de la Culture et des Arts du gouvernement Gizenga II. Nous lui disons merci d'être venu. Avec vous, Estrès Kambale, nous parlerons de votre carrière à la Haute Autorité des Médias. Nous nous intéresserons également au plan d'action du ministre de la Culture que vous êtes. Dès 1987, vous intégrez les services des renseignements où vous avez travaillé pendant près de 10 ans à l'Agence nationale d'immigration, ANI, et au Service national d'investigation, SNIP. Parlez-nous un peu de cette carrière, Estrès Kambale.
Merci, madame. Effectivement, j'ai commencé ma carrière au sein de service de renseignement et de sécurité, d'abord comme un agent externe, mais depuis 88, j'étais devenu un agent effectif. Et à ce titre, j'ai travaillé à l'état-major comme chef de bureau chargé de recherche. Avant d'aller en province, j'ai fait tour à tour le Katanga, le Somala, c'était le Chaba où j'ai fait plus de 7 ans.
Toujours dans les services de renseignement.
Oui, et de là je suis allé dans la province orientale, puis dans la province du Maniema. J'ai occupé donc le poste assez important dans ce service pour devenir directeur adjoint des services de renseignement dans la province, dans les différentes provinces que je viens de citer. Et à ce titre, pour ce qui concerne le Katanga principalement, j'ai été témoin de tout ce qui s'est passé comme événement de 90 à 93.
Quel événement par exemple?
Les événements au cours desquels il y a eu la chasse de nos originaires. Il y a eu tous ces événements tragiques et je voulais profiter de votre micro pour vous informer que je viens de publier justement un livre sous les éditions L'Armatan, le livre qui s'intitule « Du Chaba au Katanga ». Et ce livre relate certains des événements qui se sont déroulés dans cette province. Et je pense que c'est la semaine prochaine qui sera présenté au public au Grand Hôtel de Kinshasa et peut-être les intéressés pourront avoir la volonté de vouloir lire, de comprendre ce qui s'est passé. Plus particulièrement, vous rappelez, il y avait cette triste histoire de l'Etiti Mboka où on a prétendu avoir tué des étudiants, massacré des étudiants. J'ai développé une thèse contraire sur base de ce que j'ai vu.
En 1988, vous faites une formation paramilitaire au centre d'instruction militaire de Kibomango. Vous aviez des ambitions de travailler dans l'armée?
Non, c'était à 88, madame. C'est-à-dire à l'époque, pour être effectif dans les services de renseignement, il fallait faire une formation paramilitaire. Et c'est une formation paramilitaire qui a été organisée par le service. Et nous étions, je me rappelle bien, une centaine d'agents. C'est une formation qui était importante parce que pour moi personnellement, elle m'a permis de pouvoir vaincre la peur que j'avais depuis mon enfance.
Parce que quand vous étiez jeune, vous étiez peureux?
J'étais très peureux. J'étais même incapable de sortir dehors le soir. J'avais toujours peur, je ne sais pas de quoi, mais quand je pose la question à mes parents, ils me disent que j'étais un enfant qui a eu un début très difficile, au point que j'étais tout le temps malade, j'ai souffré de malnutrition. J'ai donc été malnutri à l'époque.
Parce que les parents n'avaient pas une bonne condition?
Je crois, oui. Les parents n'avaient pas de bonnes conditions de vie. Mais après, bon, avec la force de Dieu, je suis rentré à la vie et j'ai commencé les études. Mais je dois avouer que le service militaire m'a beaucoup, beaucoup aidé pour vaincre cette peur-là, au point qu'aujourd'hui je n'ai peur de rien.
Même pas de la mort?
Non, même pas de la mort. Surtout que je suis un chrétien, je ne peux pas avoir peur de la mort. Je l'affronte. Et je l'ai d'ailleurs bravé plusieurs fois.
Vous avez été agressé plusieurs fois?
Oui, je me rappelle avoir déjà une fois été victime d'un enlèvement ici dans la ville de Kinshasa, c'était en 95, où des hommes armés voulaient me ravir ma voiture. J'étais à ce moment-là professeur à l'ISP Gombe, donc j'ai eu la vie sauve, j'ai bravé la mort, surtout pendant les moments difficiles de notre pays à l'est de la République démocratique du Congo, où j'ai été plusieurs fois arrêté, ou arrêté par les forces qui étaient très fortes.
Et après tout ce temps passé au service des renseignements, vous vous retrouvez chef des départements, mobilisation et propagande au Rassemblement Congolais pour la démocratie, RCD Goma. C'est là entre 1998 et 1999. Pourquoi vous quittez ce parti puisque vous intégrez le RCD KML de Mboussa Nyamwisi? Qu'est-ce qui s'est passé, Stress Kambali?
Justement, nous avons œuvré au sein du RCD Goma tout au début et nous croyons justement à un changement politique, mais dès le départ on a compris que c'était plutôt autre chose, c'était pas ça. Et c'est pourquoi à l'époque avec le professeur Wamba Diawamba et Mboussa Nyamwisi, nous avons quitté le RCD Goma pour faire le RCD KML. Mais là aussi, je dois vous dire que je n'ai pas eu une vie heureuse parce que c'était presque la même chose. On a compris qu'il y avait beaucoup de manipulations extérieures et intérieures. Je venais de vous parler de la mauvaise expérience que j'ai eue. C'était au RCD KML. Je me suis retrouvé pendant 8 mois dans des trous béats, dans des trous, emprisonné pour des raisons que je n'ai jamais compris jusqu'à ce jour.
Radio Capi, grand témoin.
Ancien premier vice-président, puis président de la haute autorité des médias, Estresse Kambale Bayekwa est actuellement ministre de la culture et des arts du gouvernement Gizenga II. C'est lui que grand témoin reçoit aujourd'hui. Alors Estresse Kambale, nous allons parler de votre passage à la haute autorité des médias. Mais avant cela, qu'est-ce qui vous a attiré dans les services des renseignements, Estresse, alors que vous avez votre diplôme de licence en pédagogie appliquée, option anglais, culture africaine de l'Institut pédagogique national IPEN, actuellement Université pédagogique nationale.
Oui, madame, c'est vrai, vous avez raison de me poser cette question. En fait, dès la fin de mes études universitaires, j'ai été assistant à l'ISP Gombe et puis chef des travaux, mais j'ai bénéficié d'une bourse du gouvernement à l'époque pour les études post-universitaires à Londres. C'est là que j'ai en fait commencé à intégrer, à être contacté par les services de renseignement extérieur pour pouvoir faire certains travaux d'analyse. Et c'est comme ça que je suis entré par les services de renseignement.
En 2003, Estrasse Kambale, pendant la transition, vous entrez à la haute autorité des médias comme vice-président. Puis en 2006, vous en devenez le président. Pouvez-vous rappeler les attributions de cette institution d'appui à la démocratie?
Nous sommes au début de la transition. Il fallait organiser 3 ans après, c'est-à-dire en 2006, les élections. Il fallait donc, dans un pays post-conflit, devait se rechercher que faire. Il y avait, on avait mis sur pied la commission électorale indépendante, la haute autorité média et d'autres institutions d'appui à la démocratie. Ces institutions devaient donc jouer un rôle capital pour que les élections se passent dans une atmosphère calme, acceptable et pleine de démocratie. C'est ce que nous avons commencé à pouvoir faire. Moi, connaissant la situation qui prévalait dans notre pays, dans le secteur des médias, nous avions donc une tâche extrêmement difficile. Le président Mutinga et tous les autres membres du bureau, nous avions une tâche compliquée. Vous rappelez comment il fallait absolument arriver à concilier les points de vue. Nous voulions des médias responsable, des médias qui ne divulguent pas la haine tribale, les attaques personnelles. Enfin, on devait absolument faire en sorte que les médias puissent contribuer à la réussite de la transition. C'est ce que nous avons pu faire. Je pense qu'aujourd'hui, même s'il y a ceux qui ont des points de vue contraires, je voudrais faire une auto-évaluation pour dire que je suis satisfait du travail que nous avons fait. Moi, j'étais chargé de la commission de saisine et plainte. Donc, toutes les plaintes qui émanaient de partout, c'est moi qui les traitais. Et après, le premier vice-président et donc président de cette commission-là. Et je vous assure que c'était pas facile parce qu'il fallait donc proposer des sanctions à prendre contre les médias.
Alors, Estrès Kambalé, nous avons contacté quelqu'un qui vous connaît très bien, qui nous a parlé de vous. On va l'écouter.
Estrès Kambalé, on s'est connu pendant la rébellion à Douma. Il était venu avec les gens du RCD. J'étais attaché de presse chez lui. C'est là qu'il m'a découvert. Et moi, c'est là que je l'ai découvert. Quand il est allé à Kinshasa, pendant la transition, il m'a appelé pour être son secrétaire particulier. On a fait 3 ans ensemble. On travaillait à la Haute Autorité des médias. C'est un grand travailleur. Les gens peuvent penser que je suis en train de le louer. Mais franchement, Baekwa, à la Haute Autorité des médias, il était apprécié par non seulement le président Mutinga, les autres collaborateurs avec qui il travaillait, et tout le personnel de la Haute Autorité des médias à Kinshasa reconnaît ce que c'est Baekwa, sa façon de travailler, sa façon de vivre avec les gens. Ce que je lui reprochais souvent, c'est qu'il était sévère par rapport à moi, et chaque fois que je lui posais la question, il me disait qu'il était en train de me former. Donc, c'était un peu difficile de le comprendre, parce que lui prend les choses au sérieux. Quand vous travaillez avec lui, il peut tourner sur vous. C'est par après que vous allez découvrir qu'il était en train de vous former, quoi.
Et si on vous demandait de lui proposer une chanson?
Je me souviens, la Haute Autorité des médias avait une activité à l'hôtel Caribou. Alors, il y a l'orchestre Ok Jazz qui avait joué quelle chanson encore? Au Bénit. Ah, voilà. Au Bénit. J'ai retrouvé.
Vous reconnaissez la personne qui a parlé tout à l'heure?
Oui, c'est Mekabouave. C'est mon agent.
Est-ce que vous aimez la musique?
Bien sûr que j'aime la musique et j'ai toujours dit que personne ne peut vivre sans musique.
Mais quel genre de musique aimez-vous?
J'aime toutes sortes de musiques. Bah, je commence d'abord par la musique moderne. Quelqu'un l'a dit que je suis fanatique de Ok Jazz, cela est vrai. Il y a Zaïko, hein? Je suis grave fanatique de Zaïko.
Pour un grand danseur moderne. Aussi?
Danseur peut-être pas, mais j'écoute plus.
Il est toujours difficile d'être aimé que d'aimer. Moto, o si cae, así vamos.
Alors, Estras Kambalé, c'est vrai que vous aimez beaucoup la musique religieuse, mais lorsque vous écoutez cette chanson de Lutumba Simaro, qu'est-ce que ça vous inspire?
Ce sont des conseils, justement. C'est ce que j'ai toujours souhaité, que notre musique ne puisse pas perdre cet aspect éducatif. La musique, bien sûr, elle est gaie, elle adoucit le mœurs, comme on dit. Mais aussi, il faut que la musique puisse être une musique éducative. C'est l'aspect éducatif qui m'intéresse dans cette chanson. On dit, si l'enfant ne veut pas comprendre les conseils qu'on lui donne, laissez-le, il finira par comprendre qu'il avait tort. Ce sont des conseils qu'on a en train de donner. Je pense que mon combat avec la musique moderne, les gens peuvent peut-être penser que je suis méchant. Non, je voudrais qu'il puisse y avoir une diversité de thèmes à développer. Il y a l'amour, bien sûr, mais il n'y a pas que l'amour, il y a aussi des conseils qu'il faut donner. Les artistes musiciens, ce sont des poètes, comme vous venez de suivre avec Lutumba ici. Alors, il y a beaucoup de thèmes à développer, les thèmes de l'aspect de la vie. Hein? Si vous voyez un type comme la musique de Tabouley, la musique de Loke Jazz, il n'y a pas que l'amour qu'on développe. Et ici, actuellement, je m'attaque parce que c'est comme si c'est l'amour pour l'amour, c'est-à-dire le sexe. Non, c'est ça ce que je n'aime pas. Moi, je pense qu'il y a lieu de faire en sorte que nos artistes musiciens puissent développer le spectre de thèmes qu'ils ont à développer, comme c'est le cas ici.
Chef d'entreprise, dirigeant des institutions publiques et privées, responsable de syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Estras Kambalé Baekwa est l'invité de Grand Témoin aujourd'hui. Vous venez d'intégrer le gouvernement Gizenga II à la suite d'un remaniement. Vous êtes ministre de la Culture et Arts. Qu'est-ce qu'on entend par culture et arts, Estras Kambalé?
Très facile. La culture, c'est l'identité même d'un pays. Vous savez que nous avons une identité congolaise. C'est ce qui fait partie de la culture congolaise. Nous avons une grande responsabilité de pouvoir valoriser l'identité culturelle congolaise. Et aussi, nous devons faire la promotion des œuvres d'art. Les œuvres d'art, vous les connaissez. La musique, c'est une œuvre d'art. Les livres, c'est une œuvre d'art. Donc, tous les arts plastiques, vous connaissez. C'est très facile à définir. Mais c'est donc la grande tâche que nous avons au ministère, c'est ça. Revaloriser l'identité culturelle congolaise. Le ministère de la Culture et des Arts est un grand ministère, un ministère important, parce que sans le travail qu'il doit faire, il n'y aura même pas de développement dans ce pays. Notre pays est potentiellement riche en œuvres d'art. Au point que dès que nous arriverons à canaliser toutes les recettes que ces œuvres d'art produisent pour notre pays, nous allons aussi avoir un secteur aussi convoité comme les mines, comme le pétrole, etc.
Oui, Excellence, quand on parle du ministère de la Culture et des Arts, on voit plus la musique et le théâtre et les autres artistes comme les sculpteurs, les plasticiens, pour les citer que c'est là, ils sont presque abandonnés. Qu'est-ce qui se passe?
Non, ils ne sont pas abandonnés. Le problème est que c'est nous les Congolais qui n'avons pas beaucoup de connaissances ou d'amour par rapport à cette discipline.
Ou c'est peut-être le ministère qui ne valorise pas.
Non, écoute madame, quand il suffit qu'un musicien fasse un concert, vous voyez, tout le monde va là-bas. Mais quand j'ai dit qu'il y a une exposition d'œuvres d'art à la Halle de la Gombe, c'est la peinture qui est là-bas. J'arrive pour inaugurer, j'en parle à la radio, je vois le public qui est là-bas, les gens ne s'y intéressent même pas.
Mais justement, parce qu'il y a pas, vous ne donnez pas de la valeur à cette discipline, il faut peut-être une politique de la part du ministère de la Culture pour pousser les gens à aimer la peinture, la sculpture.
Mais c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est justement ce que nous faisons. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle, madame, que je dois vous dire, donner au public, que l'affaire de 2 millions que le président de la République a donné aux artistes, le texte qui, la structure qui va gérer cet argent est maintenant signé, le décret a été signé par le Premier ministre. Donc maintenant, les choses devront se faire convenablement. Et dans cette répartition, la répartition de cet argent, la gestion de cet argent, eh bien, c'est la valorisation de tous les arts. C'est-à-dire, il n'y aura pas que seulement la musique, mais il y aura aussi les autres arts. Mais aussi, madame, devant un public qui pense que la culture ou les arts, seulement la musique, accepter qu'il faut du temps pour que les gens puissent aussi comprendre que non, quand il y a un festival, j'étais au festival de Gungo, il n'y a pas longtemps, j'étais au festival, à Varadero. Mais vous voyez que ce sont les danses folkloriques. Hein? Il y a un engouement, les gens veulent voir les gens danser, mais les gens ne veulent pas voir comment quelqu'un a un peintre. Vous voyez, aujourd'hui nous avons un grand artiste, Maître Liolo. Est-ce que l'opinion connaît que Maître Liolo est aussi grand que l'Okejaz? Vous comprenez? Donc, nous avons toute une culture à pouvoir faire expliquer à la population. Je pense que c'est cette politique-là que nous sommes en train de vouloir faire, mais vouloir mettre sur place. Mais il faut aussi avouer que 2 millions de dollars, c'est beaucoup et c'est peu par rapport à la multitude des artistes et qui ont de très grandes valeurs que nous avons dans ce pays. Pour ne parler que de Kinshasa, je voudrais vous dire que les 2 millions-là, c'est presque rien.
Mais il faudra aussi que cet argent soit réparti équitablement, parce que ça risque de poser encore problème. Hein,
non, non. Vous savez, madame, ça cause problème quand il y a opacité dans la gestion.
Je ne suis pas seule à poser des questions au ministre de la Culture et des Arts. Il y a aussi des artistes qui ont des questions à vous poser. C'est le cas de celui qu'on va écouter.
Moi, je m'appelle Jean-Chaka Tupama. Je suis artiste et comédien. Qu'est-ce que le ministre peut nous dire? Parce que il dirige un département où le métier d'artiste n'est pas reconnu comme étant un métier. Alors, quand il se trouve dans des réunions avec les autres ministres, qu'est-ce qu'il dit? Et puis, depuis qu'il est là, quelle est sa politique culturelle?
Quelle est la politique culturelle? Vous savez, madame, et il faut que l'opinion le sache, il y a eu les états généraux de la culture dans ce pays. C'est en
2006.
Une première préoccupation que j'ai, c'est la valorisation de l'identité culturelle de la RDC. Et c'est un travail qui est laborieux, qui demande la contribution de tout le monde, qui demande la patience, qui veut que nous tous nous puissions mettre la main à la pâte. Deuxième préoccupation, la promotion justement des œuvres d'art. Il faut arriver à promouvoir toutes les œuvres d'art. Je pense que depuis que je suis là, cet artiste doit comprendre le peu de travail que nous faisons. Un, je suis allé à Paris au mois de mars pour rencontrer le secrétaire général de l'OIF, la francophonie, et le directeur général de l'UNESCO. C'est depuis 2003-2005 qu'il y a des conventions culturelles importantes. La convention sur la protection du patrimoine culturel immatériel. Qu'est-ce qu'on appelle par patrimoine culturel immatériel? Ce sont les rites, les danses, les chansons, les contes. Ce n'est pas protégé. Vous êtes en train de voir comment nous sommes envahis par le patrimoine culturel extérieur. Nous devons arriver à protéger notre patrimoine culturel immatériel. La ratification de ces conventions ouvre des voies, notamment l'argent, à notre pays à pouvoir bénéficier des aides pour la promotion de la culture, des œuvres d'art. Troisième chose, c'est l'idée de pouvoir réhabiliter ou construire les infrastructures culturel. Vous vous rendez compte, madame, dans notre pays.
On n'a pas de salle de spectacle.
Et l'argent, là, il n'y a même pas une salle de cinéma. Aucune salle de spectacle, aucune salle de cinéma, aucun musée. Un pays culturellement riche, avec des œuvres d'art, comme je viens de le dire, sans même un seul musée. Nous sommes allés négocier pour que nous puissions voir comment nous pouvons construire un musée moderne ici à Kinshasa. Et les démarches sont en cours. Je pense que je suis très optimiste pour dire que ces différents projets, certainement, pourront avoir gain de cause. Il dit que le métier d'artiste n'est pas reconnu.
Il n'est pas reconnu.
Mais où est d'ailleurs ce métier? Où sont les espaces culturels dans ce pays? Il n'y en a même pas. La culture et les arts, madame, dans ce pays, c'est un chantier, un grand chantier.
Vous avez un grand travail, excellent.
On a un grand travail. On est en train de progresser petit à petit. Aujourd'hui, l'ami doit comprendre que nous sommes en train de faire la politique d'ouverture. Nous avons envoyé les pygmées au Cuba. Et ils sont rentrés, depuis qu'ils sont rentrés, ils sont l'objet de sollicitations. Le métier d'artiste n'est pas reconnu. Bien sûr, il n'y a même pas le statut d'artiste. Donc nous sommes en train de travailler sur les textes maintenant que nous allons soumettre donc au Parlement pour l'intérêt, pour la promotion justement de la culture à notre pays.
Et est-ce que dans vos projets, vous avez pensé à la situation de la SONECA, la Société Nationale des Éditeurs, Compositeurs?
Je vous ai dit, madame, que d'ailleurs l'artiste qui a posé la question aurait dû parler d'abord de ça, parce que c'est la SONECA qui doit aider à ce qu'il puisse récupérer son droit d'auteur. Et elle est à liquidation depuis plus de 9 ans. Aujourd'hui, madame, nous avons réussi à faire en sorte que le texte qui va créer la société, qui va remplacer la SONECA, ce texte-là est en train d'être étudié au niveau du gouvernement. Donc d'ici là aussi, cet aspect-là sera dépassé. Nous voulons que la SONECA puisse revêtir un aspect neuf. Mais la grande lutte que nous avons, que nous menons au ministère, depuis que nous sommes là, c'est de faire en sorte que les contribuables, les gens qui doivent de l'argent à la SONECA, ils ne voudraient pas les citer ici. Je leur demande de payer la SONECA parce que ce sont ceux-là qui rendent nos artistes pauvres. Vous savez, madame, il y a des millions et des millions de dollars que des entreprises localement ici à Kinshasa doivent à la SONECA pour le compte des artistes. Et ils préfèrent faire des magouilles, mais ces mêmes artistes-là, il faut qu'ils viennent m'aider pour qu'ensemble nous puissions mener la lutte pour que les gens qui doivent à la SONECA puissent payer l'argent pour les artistes. En plus, madame, dès mon arrivée en fonction, j'ai dit, nous menons la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit. Nous avons commencé à estampiller les œuvres musicales. Et aujourd'hui, nous avons plus de 45 000 supports que nous devons détruire. J'ai reçu un artiste qui m'a dit que non, moi je préfère que mes œuvres soient piratées, parce que si je les pirate pas, les autres vont les pirater. Donc nous voulons les aider et ils ne veulent pas qu'ils soient aidés. Vous savez, c'est malheureux, madame, que moi, ministre de la Culture et des Arts, je reçois des artistes. Ils sont malades. Ils sont dans un état difficile. Je regarde, je dis, mais où est alors leur droit? Et la plupart aussi, il faut aussi le dire, il y a des gens, des artistes qui ont eu à avoir des moyens, qui les ont utilisés pour dans des futilités. Et maintenant qu'ils sont à difficulté, président de la République, gouverneur Kimbuta, oh ministre, non, il faut aussi que nous fassions la part des choses. Alors il faut quand même que aussi nos artistes puissent avoir ça à l'esprit, qu'ils préparent leur avenir.
Issas Kambale, un dernier mot à dire à toutes les personnes qui pensent que le ministère de la Culture et des Arts en RDC ne valorise pas les valeurs culturelles congolaises à l'étranger et même en RDC.
Ce que je voudrais demander à l'opinion, tant nationale qu'internationale, c'est que la musique congolaise est une musique qui a une grande valeur. Mais cette musique, aujourd'hui, elle doit nous aider à développer les valeurs positives. Je suis contre les danses obscènes que nous observons à travers la musique. Je suis contre la façon dont les artistes et musiciens habillent les jeunes filles sur le podium lors des spectacles. Je suis contre l'utilisation de la jeune fille dans la publicité de l'alcool. Il ne faut pas qu'on donne... Pendant que l'UNICEF demande que les gens aillent à l'alcool, les jeunes filles, il ne faut pas qu'on puisse croire que la place de la jeune fille, c'est en train de trimballer pour faire la publicité de l'alcool. Non. Il ne faut pas que, à cause de la culture ou à travers la culture, qu'on puisse chosifier la femme. Je m'oppose à ça et je voudrais que tous les Congolais puissent nous aider à pouvoir lutter contre ces antivaleurs qui sont en train d'envahir notre musique. En ce qui concerne les autres disciplines de la culture, notamment les danses folkloriques, notamment le théâtre, notamment la peinture, notamment la sculpture, la céramique, etc., je voudrais dire que nous sommes vraiment éveillés. Nous voulons que toutes ces disciplines puissent contribuer à la reconstruction de notre pays, à faire en sorte que nous puissions être le sixième chantier de la République, c'est-à-dire le chantier qui construit l'homme, le chantier qui commence par donner de la valeur à l'identité culturelle congolaise.
Grand témoin, recevez Esdras Kambale Bayekwa, ministre de la Culture et des Arts. Nous lui disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Willem Lungamba qui a assuré la mise en onde. Cette émission est disponible sur le site de Radio Okapi, www.radiookapi.net, où vous pouvez non seulement voir les photos de nos invités, mais également nous écrire et réécouter toutes les émissions passées des grands témoins. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.